Merci François et bonjour à tous. Christ est parmi nous. En Christ se concentre l'espérance de la gloire à venir. Oui, nous pouvons dire Amen à ces deux affirmations car elles sont vraies. Enfin, du moins, même si c'est difficile de comprendre tout de suite ce que veut dire « se concentre l'espérance de la gloire à venir », cela nous semble plutôt joli et bibliquement correct. Cela, je ne le dis pas de moi-même, je reprends l'apôtre Paul qui le dit dans sa lettre qu'il écrit à l'église de Colosse. Avant de procéder à la lecture du texte, je me permets une petite remise en situation. La lettre aux Colossiens se situe donc dans le Nouveau Testament. Et nous pouvons la dater de l'an 60, c'est-à-dire 30 ans après la mort et la résurrection de Christ. Les lettres aux églises qui sont dans le Nouveau Testament sont des lettres d'encouragement qui ont été écrites par Paul et par Timothée aux premières églises chrétiennes, car celles-ci montraient déjà quelques, disons, signes de faiblesse. Le problème de l'église de Colosse, c'est la menace de l'hérésie. Il s'agit donc pour Paul et Timothée de rétablir la souveraineté de Christ dans l'enseignement de cette église. Petit point important à avoir en tête pour comprendre le premier verset de notre passage, Paul, quand il écrit la lettre, est actuellement en prison à Rome. On étudiera donc ce matin Colossiens 1 et on verra les versets 24 à 29. Je vais faire la lecture. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous. Car en ma personne, je complète pour le bien de son corps, qui est l'Église, ce qui manque aux détresses que connaît le Christ. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur, selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude, en vous faisant connaître le secret de son plan tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour ceux qui lui appartiennent. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret. Le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. C'est ce Christ que nous annonçons en avertissant et en enseignant tout homme avec toute la sagesse possible, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force du Christ qui agit puissamment en moi. En substance, Paul dit aux Colossiens dans ce passage, « Depuis toujours, la compréhension du plan global de Dieu a été compliquée à comprendre. Aujourd'hui, je suis en prison à cause des efforts que je fais pour annoncer publiquement la clé que Dieu a donnée pour comprendre son plan global. Et cette clé, c'est, verset 27, le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Cette phrase, c'est 17 mots dans la bouche de Paul. Je vais tenter de vous l'expliquer en moins de 2000, en 1940, d'après mon éditeur de texte. Digne donc d'un bac de philo. Ce que nous allons faire, c'est de tenter une définition plus concrète de cette phrase. Une fois que nous aurons mieux compris le contenu de ce verset, nous verrons quelles en sont les implications pour l'Église. Quand nous parlons de Christ est parmi nous, ou Christ est en nous, selon certaines versions, il faut comprendre que Christ est présent dans son Église. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Paul sent le besoin de leur dire cela. de leur rappeler que Christ est parmi eux. Comme je le disais en introduction, Paul écrit à l'église de Colosse, entre autres pour combattre l'hérésie, pour tordre le cou à de faux enseignements qui voudraient mettre Jésus sur la touche. Sauf que Jésus, foot ou rugby, c'est le numéro 10. Le fait de savoir qu'il est sur le terrain et qu'il est central vient orienter tout le jeu de l'équipe. Si l'Église suit une doctrine qui ne met pas son meneur de jeu au centre, cela ne fonctionnera pas. Paul le dit de manière assez simple et claire au verset 4 du chapitre 2. « J'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours séduisants. » Le fait de savoir qu'il est sur le terrain... On coupera au montage. Dans le secret que Paul révèle, il y a une seconde information. En Christ se concentre l'espérance de la gloire à venir. Prenons une image. Et d'ailleurs, restons sur le thème sportif. 8 juillet 1998. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, je ne sais même pas si vous étiez tous nés à cette époque. Mais ce 8 juillet 1998, l'équipe de France de football, emmenée par Aimé Jacquet, bat la Croatie 2-1 devant 80 000 spectateurs et des millions de téléspectateurs. Demi-finale de coupe en poche, nous sommes qualifiés pour la prochaine étape, une finale annoncée contre le Brésil. Depuis ce moment précis, et jusqu'à la dernière minute de la finale, l'espérance de millions de Français pour la gloire à venir est concentrée dans la vingtaine de joueurs de l'équipe de France. Une victoire en Coupe du Monde. Qui plus est, chez nous, à Paris, amorcerait quelques années de gloire pour l'équipe de France, mais aussi pour la fierté d'être Français. Vous saisissez le parallèle ? L'espérance de l'Église pour une vie éternelle dans le royaume glorieux de Dieu est concentrée non pas dans une équipe de football, heureusement, ni même dans une équipe d'apôtres, mais dans le Christ seul, crucifié et ressuscité. Je répète, l'espérance de l'Église pour une vie éternelle dans le royaume de Dieu est concentrée dans le Christ seul, crucifié et ressuscité. Et oui! Après la demi-finale, mais avant la finale, rien n'était certain. Nous espérions que l'équipe de France gagne, bien sûr. Gagner cette Coupe du Monde, c'était battre l'Italie, l'Argentine, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne et toutes ces belles équipes qui participaient à cette compétition. Champion du monde pour 4 ans. Alors, je vous l'accorde, 98, c'est un peu loin. La fierté est peut-être un petit peu retombée entre-temps, quoique. Mais avec Christ... Avec Christ, pas de compétition. Mais seule la foi pour le pardon des péchés est requise. Avec cette foi en Christ, nous sommes déjà vainqueurs. Et nous pouvons attendre et espérer dans ses promesses. C'est-à-dire dans le fait d'accéder, après notre mort, au royaume glorieux de Dieu. Paul présente cette annonce comme un secret autrefois caché. En effet, autrefois, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, avant la venue du Christ, la foi pour le pardon des péchés n'était pas aussi claire, pas aussi limpide. L'Ancien Testament marque une distinction nette entre le peuple élu de Dieu, le peuple d'Israël, et les autres peuples. Désormais, par Christ, les chrétiens deviennent co-héritiers des promesses de Dieu. Et pour comprendre cela, retournons en 98. Je ne vous apprends rien en vous disant que cette finale contre le Brésil, on l'a gagnée. Et quand je dis « nous », ce n'est pas seulement les quelques milliers de spectateurs qui ont fait l'effort de venir au Stade de France, de payer leur place, je pense, une fortune, et d'être... peut-être aperçu par quelques joueurs sur le terrain. Non, quand je dis nous, ce sont tous les Français qui peuvent être fiers de cette Coupe du Monde. Gagner la fierté d'une Coupe du Monde en restant assis au fond du canapé à regarder la télé vous paraît être peut-être une injustice. Peut-être, c'est comme ça. En tout cas, Christ annonce un message qui ouvre le royaume de Dieu à quiconque croit en lui, juif ou non juif, et sans tout le respect des commandements, ni même un quelconque héritage familial. C'est à vous de l'accepter ou non. Si Paul en vient à écrire une lettre aux Colossiens, c'est qu'il y a un souci. Et ce sera ma deuxième partie. Coincé en prison, je veux croire que l'apôtre n'écrit pas pour raconter ses misères ou simplement pour passer le temps. Au premier verset de notre passage, il dit se réjouir des souffrances qu'il endure pour les Colossiens. Son but ? Enseigner l'Église. Faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ. Et là, je cite le verset 28. Paul dit se réjouir des souffrances qu'il endure pour l'Église. Peut-être étrange. Il faut en tout cas replacer ce verset dans le contexte de la lettre. Je veux croire que Paul, comme tout homme, n'aime pas souffrir. Toutefois, ici, il sait que ses souffrances accompagnent sa mission, celle d'annoncer le Christ ressuscité. Cela, il le fait devant tout type de public. À Athènes, il annonce devant un parterre de païens polythéistes. Dans chaque ville où il passe, il va parler de Christ aux Juifs dans les synagogues. Dans ses lettres, il prêche aux jeunes églises pour les remettre dans le droit chemin. Pour lui, dans tous les cas, sa mission, c'est la croissance de l'Église. Aujourd'hui encore, si nous annonçons le Christ, si nous cherchons à faire la volonté de Dieu, ne serait-il pas étonnant que nous aurions à en souffrir, que nous trouvions peut-être cela difficile, décourageant? Gardons en tête qu'en œuvrant pour l'avancée du royaume de Dieu, nous rentrons sur le terrain avec Jésus en demi d'ouverture. Et croyez-moi que l'équipe d'en face a diaboliquement pas envie de nous voir marquer des points. Notre attention ne devrait pas se porter sur la taille du talonneur en face de nous, mais bien plus de savoir qu'à côté de nous, il y a Jésus. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés à la croix, Jésus a gagné haut la main. Le résultat du match à la fin des temps est déjà connu. Que reste-t-il ? Reste à savoir si nous avons envie de prendre plaisir, comme Paul, à être sur le terrain, même s'il faut prendre des coups. Ce que nous venons de faire par rapport à ce texte, c'est de nous mettre à la place de Paul quand il écrit cette lettre. Mettons-nous un instant à la place des Colossiens. Le texte ne rentre pas dans le détail, mais la lettre aux Colossiens et son contexte nous apprennent que l'Église a tendance à laisser trop de place à des doctrines qui ne mettent pas Christ au centre. Pour combattre cela, Paul explique que son objectif, c'est de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte, dans son union avec le Christ. Quand nous étions jeunes, puisque nous avons tous été jeunes à un moment, nous avons été à l'école primaire. Et c'est pourquoi, inlassablement, année après année, il y a des maîtres et des maîtresses qui rabâchent, qui répètent, qui corrigent. Car oui, c'est toujours la même chose. 8 fois 7, ça fait toujours 56. La Suède n'a toujours pas déménagé dans le sud de l'Europe et la Révolution française persiste vraiment à s'être déroulée un 14 juillet 1789. Mais alors, qu'est-ce qui pousse ces maîtres à être patients et à répéter la même chose à des enfants qui peinent à écouter? N'est-ce pas pour les voir grandir et devenir des adultes instruits? L'image que Paul prend d'être un adulte dans sa relation avec le Christ est intéressante. Et vous? Vous, comment est-ce que vous progressez dans votre relation avec Jésus? Comment est-ce que s'améliore votre compréhension de ce qu'il a fait à la croix? Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'ait dit, je me suis réveillé un matin et j'avais tout compris. Alors oui, à la conversion, vous avez peut-être expérimenté qu'il y avait une marche de franchi. Peut-être quelque chose comme l'expérience qu'ont eue les 12 disciples lorsque Jésus leur a révélé les Écritures. Ça, on a ce détail-là au début du livre des Actes. Comme beaucoup de jeunes deviendront adultes une fois le bac en poche, nous chrétiens sommes appelés à devenir pleinement conscients de son sacrifice et de ses promesses. Bible en main, je crois pouvoir affirmer que le Seigneur aime travailler par de petites touches avec ceux qui veulent devenir adultes. Cela peut être par une épreuve difficile, par une discussion avec un frère ou une sœur en Christ, par le fait de voir Dieu à l'œuvre autour de nous, ou plus quotidiennement par des temps de prière, par des temps de lecture. Il y a de multiples manières de progresser dans sa foi, mais il n'y a qu'une seule direction, celle de regarder à Christ et de ne pas se laisser perdre dans des philosophies, des croyances où Jésus n'aurait pas une place centrale. Pour résumer ce que nous avons vu ce matin, pour résumer ce que nous avons vu sur ce texte, nous avons reçu un secret, celui de l'Évangile. Cette bonne nouvelle, nous le savons, elle est désormais disponible pour tous. Grâce à elle, le Christ est en nous et nous avons accès par la foi au royaume de Dieu pour l'éternité. Œuvrer activement pour l'Évangile s'accompagne de persécutions, mais celles-ci sont prévues. D'un autre côté, chacun est appelé à parfaire son union avec le Christ. Ce n'est pas immédiat. C'est un chemin de croissance dans lequel il faut rester concentré sur la personne de Christ. Que le Seigneur nous aide à être motivés pour devenir spirituellement adultes et à prendre plaisir dans l'œuvre de Dieu qu'est l'Église. Je vais prier.